Les tombeaux et mausolées des ci-devant rois, élevés dans l'église de Saint-Denis, dans les temples et autres lieux, dans toute l'étendue de la République, seront détruits le 10 août prochain. Extrait du décret de la Convention en date du 1er août 1793.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le 31 juillet 1793, Camille Barrère, député des Hautes-Pyrénées, monte à la tribune de la Convention nationale et propose, alors que le prétexte officiel est de récupérer le plomb des cercueils, de s'attaquer aux tombeaux royaux qui se trouvent dans l'abbatiale Saint-Denis. Effectivement, depuis les temps mérovingiens, Saint-Denis est devenu un des lieux de la mémoire de la monarchie française. Pendant une douzaine de siècles, des dizaines et des dizaines de souverains, de reines, de princes de la famille royale ont été enterrés dans les cryptes de Saint-Denis ou autour du cœur. Et donc, il fallait peut-être, effectivement, aux yeux de la toute jeune République, eh bien, briser ce lien avec le temps qu'avait réussi à tisser la monarchie au travers des tombeaux royaux. Dès le lendemain, le 1er août donc, un décret est publié pour annoncer la destruction, à partir du 10 août, des tombeaux installés à Saint-Denis. À vrai dire, la destruction des tombeaux n'a commencé que plus tard. Ce n'est que le samedi 12 octobre que des ouvriers sont désignés pour faire cette besogne. Le premier tombeau détruit, d'ailleurs, n'est pas un tombeau de souverain. C'est un monument funéraire où se trouvait la dépouille de Turenne, mort en 1675, maréchal de France, serviteur de la couronne à l'époque de Louis XIV, et qui avait été installé dans la basilique, insigne honneur, en 1683. À vrai dire, Turenne fut relativement respecté. Quelqu'un a pu d'ailleurs récupérer la dépouille et finalement, celle-ci se trouve désormais aux Invalides parmi d'autres gloires militaires de la France. Par contre, à partir du lundi 14 octobre, les ouvriers et les représentants de la Convention présents à Saint-Denis s'attaquent à la crypte et au caveau des Bourbons. Il n'y avait plus à ce moment-là véritablement de grands tombeaux comme les Valois l'avaient fait édifier, mais il y avait des cercueils déposés dans une salle d'environ 100 mètres carrés. 54 cercueils des rois Bourbons et de la famille des Bourbons avaient été donc déposés là depuis l'époque d'Henri IV. Le premier tombeau ouvert et le tombeau d'Henri IV. Surprise, le corps est intact. L'embaumement du souverain avait fonctionné au mieux. On sortit du cercueil la dépouille d'Henri IV, on la déposa contre un mur, et les curieux, les badauds, se sont déplacés pour voir la dépouille du roi Henri. Un soldat est allé même jusqu'à lui enlever un peu de sa moustache, car, disait-il, avec un tel talisman, nous ne pouvons pas être vaincus. Il y avait donc une espèce encore de respect, en tout cas vis-à-vis d'Henri IV. Mais il n'empêche qu'après 2 jours d'exposition, le corps du roi Henri a été mis dans une fosse commune. Ensuite, on a ouvert d'autres tombeaux. On a ouvert le tombeau de Louis XIII. Le corps était fort mal conservé, mais on pouvait reconnaître le roi à cause de sa grande moustache noire. Puis on ouvre le tombeau de Louis XIV. Le corps est, nous dit la description qu'en a fait Dom Poirier, un des chroniqueurs de ces journées révolutionnaires, est conservé, mais la peau est devenue toute noire. Ensuite, on ouvre le cercueil de Louis XV. Là, par contre, le corps est en putréfaction très, très avancée parce qu'il n'y a pas eu d'embaumement. Et d'ailleurs, les témoins disent qu'une odeur pestilentielle sort du cercueil de Louis XV. Et puis on s'attaque également aux tombes des reines de France. C'est le cas de Marie de Médicis, l'épouse d'Henri IV. Alors, elle subit des insultes. Certains l'accusent d'avoir organisé l'assassinat de son mari. Puis on ouvre le cercueil d'Anne d'Autriche. Celle-ci est en voie de putréfaction extrêmement avancée et on repère la bure franciscaine qu'elle s'était fait mettre au moment de sa mort. Et enfin, on ouvre également le cercueil de Marie-Thérèse, l'épouse du roi Louis XIV. À partir de ce moment-là, on va s'attaquer à d'autres tombeaux, mais avec une question. Faut-il conserver en particulier les grands tombeaux royaux de la dynastie des Valois? Effectivement, la dynastie des Valois avait fait édifier de superbes monuments funéraires et, Dieu merci, ils ont été préservés. Parce que plusieurs spécialistes et conservateurs, finalement, du patrimoine sous la Révolution ont fait remarquer que ces monuments étaient non seulement des monuments royaux, mais finalement appartenaient aujourd'hui à la nation et qu'ils représentaient des exemples d'histoire de l'art funéraire absolument extraordinaires. Donc on a conservé, et vous pouvez aujourd'hui encore regarder et admirer les tombeaux d'Henri II et de Catherine de Médicis, de François Ier et de Louis XII, qui ont été conservés au nom, je dirais, d'une volonté de préserver un patrimoine national. Mais le travail reprend. À partir du 16 octobre, on reprend l'éventration de sarcophages, qui sont de plus en plus anciens. Pour les sarcophages Moyen-Âge et de l'époque moderne, on a des témoins qui nous décrivent effectivement des scènes sans doute quelque peu pénibles. La plupart des corps étaient en putréfaction, il en sortait une vapeur noire et épaisse, une odeur infecte, qu'on chassait à force de vinaigre et de poudre, qu'on eut la précaution de brûler, ce qui n'empêchait pas les ouvriers de gagner des dévoiements et des fièvres qui n'ont pas eu de mauvaises suites. Le texte est relativement explicite pour vous laisser imaginer ce que pouvait représenter effectivement la profanation de ces tombeaux. Au total, combien de corps ont été, si j'ose dire, dégagés par la profanation de Saint-Denis? On estime que l'on a pu dégager 71 princes et princesses du sang, 17 reines de France, 25 rois. On a pu trouver des souverains extrêmement anciens. On a retrouvé, par exemple, le sarcophage d'un roi que les Français connaissent au travers d'une chanson, le roi Dagobert. Et encore récemment, on a pu fouiller un sarcophage d'une reine mérovingienne, Arégonde. Comme je le signalais tout à l'heure, les corps, ou ceux qui en restaient, ont été déposés dans deux grandes fosses communes. Alors que s'est-il passé par la suite? Lorsque la monarchie a été restaurée après la chute de Napoléon, Louis XVIII a fait faire des recherches. Et d'abord, il a voulu retrouver les restes mortels de son frère Louis XVI et de sa belle-sœur Marie-Antoinette, qui avaient été placés dans une fosse commune, mais au cimetière de la Madeleine, à Paris. On a pu retrouver des restes mortels grâce aux témoignages d'ouvriers qui avaient indiqué le lieu où avaient été déposés les corps exécutée de Louis XVI et Marie-Antoinette. Et donc, le 21 janvier 1815, c'est-à-dire 22 ans après l'exécution, une grande cérémonie a fait que l'on a replacé les restes mortels des deux souverains à Saint-Denis. Pour le reste, eh bien, il a fallu attendre 1817. Le roi Louis XVIII a ordonné des recherches approfondies pour retrouver les deux fosses communes. Évidemment, je vous laisse imaginer qu'on a retrouvé quelque chose, grâce en particulier à un marbrier, François-Joseph Cellier, qui a aidé à retrouver les fosses du cimetière. Mais la chaux qui avait été mise sur les restes mortels avait empêché leur identification individuelle. Et donc, on a déposé dans une chapelle mortuaire eh bien, les restes de très nombreux princes, rois, reines de France qui reposent désormais, depuis le 21 janvier 1817, au sein de la crypte de la basilique, derrière des plaques noires où sont énumérés tous les souverains qui avaient été inhumés à Saint-Denis. C'est une dizaine de coffres qui ont été donc scellés par ces plaques et où donc on retrouve le nom des monarques, mais sans pouvoir dire exactement à quel souverain tel ou tel ossement appartient véritablement. Si vous allez à Saint-Denis, allez dans cette espèce de petite chapelle, parce que finalement, il y a un moment d'émotion, parce que dans un petit endroit de quelques mètres carrés, vous avez derrière ces plaques, véritablement, eh bien, quelques siècles d'histoire de la France qui reposent sans doute dans un désordre plus ou moins organisé. En tout cas, la Révolution, vous l'avez compris, avec la chronique sur la Sainte Ampoule et avec la chronique d'aujourd'hui, a cherché à briser la chaîne des temps, a cherché à effacer finalement le passé de la France, son passé monarchique, que la Révolution, dans son déroulement, avait mis à bas. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, pour les Français qui sont soucieux de l'histoire et de leur patrimoine, il est toujours extrêmement utile d'aller à Saint-Denis, parce que non seulement ils verront le lieu d'inhumation des souverains, mais ils verront également le monument où, grâce à l'abbé Sugère, est né l'art gothique au milieu du XIIe siècle. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puisque c'est ma dernière chronique de la saison, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous un heureux été et rendez-vous début septembre. Merci.